107.9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 25 novembre. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la France et la Grande-Bretagne sous le choc après le pire naufrage de migrants en Manche. Au moins 27 morts, nous serons en direct de Calais. Anaïs, dès le début de ce journal, après les autres titres.
Un rappel anti-Covid pour tous, sans doute annoncé aujourd'hui. En Guadeloupe, le gouvernement veut convaincre les réticents. L'Éthiopie recrute de nouveaux soldats chez les jeunes. Et puis la Marseillaise devant personne. Début de la Coupe Davis de tennis à huis clos en Autriche.
Rendez-vous et invité de France Inter ce matin à 7h15. Promise à 6 ans. C'est un zoom exceptionnel en Afghanistan où des familles sont contraintes de vendre leurs filles pour éponger leurs dettes. À 7h50, avec vous Léa.
Celui qu'on appelait l'insubmersible patron d'Orange à la tête de l'entreprise depuis 10 ans, rattrapé par la justice, condamné à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende dans l'affaire de l'arbitrage controversé Tapie Crédit Lyonnais. Il devra quitter son poste d'ici la fin janvier. Stéphane Richard réagira pour la première fois dans le 7-9 à 7h50. Pour la première fois tout court, ce sera dans le 7-9 à 7h50.
À 7h50. Et à 8h20, universalisme, Léa, ou wokisme? Quel chemin vers l'égalité? On posera la question à Alice Coffin, conseillère municipale Europe Écologie Les Verts de Paris, et à l'essayiste Brice Couturier. Vous pouvez intervenir dans le débat, 01 45 24 7000.
France Inter.
Comme l'Italie il y a quelques années secouée de voir la Méditerranée devenir un immense cimetière, l'électrochoc sur la côte d'Opale. Au moins 27 migrants morts noyés hier. Le scénario du naufrage n'est pas encore connu avec précision. Il faudra attendre le témoignage des rescapés. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Vous êtes à Calais où il n'y aura pas de nouvelles recherches en mer ce matin.
Non Anaïs, les recherches ont été suspendues à la tombée de la nuit et du côté de la préfecture maritime, on expliquait hier soir que de nouveaux bateaux ne seraient pas engagés ce matin, que les corps des éventuels disparus, puisque l'on ne connaît pas le nombre exact de personnes à bord, seraient probablement retrouvés lors d'opérations de sauvetage ultérieures. Hier, c'est Charles Devos, le patron de la vedette de sauvetage de Calais, qui est allé au-devant des naufragés.
Nous avons patrouillé, donc nous avons récupéré 6 corps à la dérive. Nous avons passé à côté d'une embarcation pneumatique carrément dégonflée. Le peu d'air qui restait l'aidait à flotter. On sort pratiquement 2-3 fois par semaine. De plus en plus, ils sont surchargés. De genre de Zodiac pneumatique qui font à peu près 10 mètres de long. Mais malheureusement, surchargés, ils sont 50 à bord.
Au micro de France Bleu Nord, Charles Devos se désespère de ces tentatives de passer la Manche qui laissent de plus en plus de corps en mer, des personnes dont il faut maintenant retrouver l'identité. Ici à Calais, des militants et des bénévoles du Secours catholique, de la Croix-Rouge, d'Utopia aussi vont tenter, comme à chaque décès, de leur redonner un nom en faisant le tour des campements, en questionnant ceux qui restent et qui ne sont pas encore partis. Alors parfois, ils arrivent à organiser des funérailles et à prévenir les familles, mais parfois aussi, ces morts restent anonymes, enterré sous X au carré des indigents.
Merci Faustine Calmel en direct de Calais. Les grillages qui verrouillent le port de Calais, les murs le long du terminal d'Eurotunnel poussent les migrants à emprunter cette voie maritime dangereuse. Emmanuel Macron et Boris Johnson ont convenu de l'urgence d'intensifier les efforts pour empêcher ces traversées. Et faire la chasse aux passeurs, comme le demande Gérald Darmanin, n'est pas la seule solution, selon Pierre-Henri de France Fraternité, qui met en cause le Royaume-Uni.
Ce qui vient de se passer est la conséquence d'une politique honteuse et hypocrite de la Grande-Bretagne. Oui, il faut tout faire pour lutter contre les passeurs. Mais pour autant, la France et l'Union européenne doivent maintenant demander à la Grande-Bretagne de trouver une solution alternative. Et cette solution alternative, c'est l'ouverture de voies de migration légale pour un certain nombre de personnes qui sont en besoin d'asile ou qui doivent rejoindre leur famille qui est de l'autre côté.
Pierre-Henri de France Fraternité, nous serons en direct de Londres dans le journal de 8h et une réunion interministérielle est prévue ce matin à 8h30 autour du Premier ministre.
Il est 7h04, pas de confinement Anaïs, mais des rappels de vaccins pour tous.
Oui, voilà les grandes orientations précisées à midi et demi par le ministre de la Santé. Rappel après 5 mois pour les adultes dès le début décembre, passe sanitaire désactivé si ce n'est pas fait. Et pression sur les non-vaccinés, le test, toujours payant, ne sera plus valable que pendant 24 heures. En Guadeloupe, pour convaincre les réfracteurs à la vaccination, le gouvernement s'engage à proposer des vaccins autres qu'à ARN messager. Le reportage de Yann Gallic au CHU de Pointe-à-Pitre.
Ils sont installés sous des tentes à l'entrée du CHU. Des dizaines de soignants et de personnel hospitalier viennent ici tous les jours pour manifester. Sandra fait partie des salariés de l'hôpital, suspendue depuis le mois d'octobre car elle refuse de se faire vacciner.
C'est un choix personnel, moi je pense qu'on n'a pas assez de recul.
Qu'est-ce que vous pensez de la proposition d'administrer ici des vaccins sans ARN messager aux Antilles ?
AstraZeneca qui entraîne des thromboses. Par contre, Sanofi doit sortir un vaccin avec adjuvant, on verra. Pourquoi pas ? Mais ça ne sera aucun des vaccins qui sont sur le marché actuellement me concernant.
La proposition du gouvernement permettra peut-être de convaincre quelques réfractaires, estime Cédric Zolesi, le directeur général adjoint du CHU de Guadeloupe.
Si d'autres solutions sont avancées par le ministère de la Santé pour permettre de lever les interrogations, de lever aussi les peurs qui ont été générées par les réseaux sociaux qui sont très présents ici en Guadeloupe, eh bien c'est une très bonne chose. Il faut avoir une logique d'apaisement, mais une logique aussi de fermeté. Là, la priorité, c'est vraiment que nos personnels se sentent en sécurité et que nos patients le soient aussi.
En Guadeloupe, près de 90% des soignants sont aujourd'hui vaccinés. Chez les pompiers, en revanche, il y a encore de fortes réticences, avec un taux de vaccination qui atteint seulement 43%.
Et en Martinique, la situation s'envenime, multiplication des barrages contre le PAS, un supermarché incendié au Robert. Nouvelle rencontre cet après-midi entre syndicats et autorités. Qui pour succéder à Stéphane Richard à la tête d'Orange, il devrait lâcher les commandes de l'opérateur historique avec 6 mois d'avance après sa condamnation hier dans l'affaire de l'arbitrage tapis. Fabien Cazot, les recherches ont commencé pour lui trouver un successeur.
Ce n'est pas un, mais deux dirigeants qu'il va falloir trouver pour succéder à Stéphane Richard, car bien avant son départ, dès septembre dernier, il était déjà question de dissocier les fonctions de président et de directeur général d'Orange. Il va falloir trouver deux profils complémentaires, un homme et une femme, pour respecter la parité, des personnalités venues du monde des télécoms qui connaissent le secteur, mais qui ne viennent pas non plus de trop loin, souhaite-t-on à Bercy. Pas question de faire un pont d'or à un patron venu de l'étranger pour diriger une entreprise aussi patrimonial qu'Orange, anciennement France Télécom. Un paquebot de près de 100 000 salariés en France, aux commandes duquel les futurs patrons devront avoir une fibre sociale. Stéphane Richard, patron apprécié en interne, avait su pacifier le climat après la crise des suicides qui avait frappé le groupe dans les années 2000. Des chantiers stratégiques attendent par ailleurs les futurs patrons, notamment celui des diversifications tentées par Orange sans grand succès, comme en Espagne ou via sa filiale Orange Bank.
En bref, dans l'actualité judiciaire, nouvelle requête en révision d'Omar Radat cet après-midi, précision dans le journal de 7h30. Et puis au procès des attentats du 13 novembre 2015, on aborde à partir d'aujourd'hui le volet belge de l'enquête sur les terroristes basés à Molenbeek, à Bruxelles. Quand des mères de famille jouent aux médiateurs sociaux dans les quartiers difficiles, elles endossent non pas des gilets jaunes, mais des chasubles roses. Ces femmes du quartier des Tarterets à Corbeil-Essonne, théâtre de heurts en septembre, ont pris l'initiative de Maraude pour discuter avec leurs enfants. Le ministère de la ville vient de débloquer 2 millions d'euros pour ce fonds Gilets Roses. Le reportage de Delphine Evenou.
Entre les grands ensembles, gilets roses sur les épaules, visibles de loin, elles sont une vingtaine à déambuler. Première équipe de 18 à 20 heures, la deuxième jusqu'à 22 heures et plus quand il le faut, tous les soirs ou presque. C'est Fatima Tassi qui a lancé le mouvement pour éviter les violences.
Les rixes interquartiers, tout ça là, on ne supporte plus ça. Donc on a décidé de faire la prévention. On va dans les cases d'escalier, on monte dans les étages, on regarde, on va où ils sont et ça se passe super bien.
On respecte une maman, on est obligé. C'est comme si c'était une autre mère à nous.
Les échanges se font avec des sourires et parfois un petit recadrage.
Quand c'est nécessaire, vous n'avez jamais pour rien. On ne crie pas dessus, mais en gros, il faut comprendre que c'est pas bien.
Mais la médiation ne s'arrête pas à cela. Peu d'infrastructures et un taux de chômage à 50% au Tarteret. Les maires profitent de leur tournée pour donner un conseil ou un coup de main pour des démarches, explique Kadiatou, 3 enfants.
Notre but même, c'est ça. Que tous les jeunes cherchent soit des formations, soit du boulot. Parce qu'au Tarteret, attendez ici, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'employeur. Les jeunes n'ont rien à faire, donc ils sont obligés d'essayer de grouper dehors.
Alors ces oreilles très attentives sont appréciées.
Déjà, ça permet une communication. Genre, chacun, même à tout âge, on peut dire un truc si on a un truc à dire. Moi, je trouve que c'est un bon geste.
Il y aurait en France plus d'une cinquantaine de collectifs citoyens spontanés comme celui des Gilets roses.
Le reportage de Delphine Evenou.
Il est 7h09, les appels internationaux au cessez-le-feu en Éthiopie, Anaïs, reste lettre morte pour l'instant.
Et l'engrenage de la guerre semble bien s'enclencher. Le Premier ministre Abiy Ahmed, ex-opérateur radio de l'armée, est parti hier sur le front de la guerre contre les rebelles du Tigré. Pendant que dans la banlieue d'Addis Abeba, Noé Ochebodin, 1200 jeunes s'engagent la fleur au fusil.
Dans le quartier de Kolfé, ils sont 18 000, comme Théodros Tefera, à s'être organisés en milice d'autodéfense.
Life is nothing.
La vie n'a pas de sens sans un pays stable autour de soi. Si je meurs sur le champ de bataille, cela permettra à ma famille et aux générations futures de vivre libre.
Mais pour l'instant, Théodros ne part pas au front, il reste à l'arrière. Il pourrait cependant répondre à l'appel du Premier ministre Abiy Ahmed qui annonçait vouloir diriger lui-même les opérations depuis le champ de bataille.
On connaît déjà les exemples des empereurs Théodros, Ménélik et Haïlé Sélassié. C'est pareil pour Abiy Ahmed. On sait que quand votre leader est sur la ligne de front avec vous, vous ne reculez pas.
Sur l'esplanade de Kolfé, la population locale est venue soutenir les jeunes qui partent au front. Manayel Emesgen a 31 ans, il s'en va demain.
Aucun membre de ma famille ne sait que je pars pour servir l'armée. Mais moi, je veux vraiment sacrifier ma vie pour la survie de l'Éthiopie. Je suis très heureux de pouvoir me sacrifier.
Manayel suivra d'abord quelques jours de formation militaire avant de partir en région Amhara. Addis Abeba, Noé Ochebodin, France Inter.
L'Allemagne de l'après Merkel accouche d'une coalition inédite de 3 partis, Verts, Libéraux, Sociaux-Démocrates, dans le contrat pour les 4 ans à venir. Anticipation de la sortie du charbon, retour à la rigueur budgétaire et légalisation du cannabis. Emmanuel Macron en Croatie, visite officielle pour signer la vente de 21 rafales d'occasion pour 1 milliard d'euros, avant de se rendre à Rome dans l'après-midi pour signer un nouveau traité franco-italien. Allez Nicolas, on dit merci qui ? Merci Leipzig. Oui. Le PSG défait 2-1 à Manchester City, qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des champions de foot grâce au carton de Leipzig 5-0 à Bruges. Et puis on l'avait presque oublié, tellement la compétition est devenue triste. Début aujourd'hui de la 2e édition de la Coupe Davis de tennis, nouvelle version. Les Bleus affrontent la République tchèque à 16h à Innsbruck. Innsbruck en Autriche donc, pays confiné, ce sera à huis clos. Et on se demande si cette compétition peut encore faire vibrer Fanny Lechevestrier.
Pas de supporters, aucun public pour les 2 matchs de poule des Bleus. Le capitaine de l'équipe de France, Sébastien Grosjean, déplore bien sûr la situation.
C'est regrettable, c'est difficile pour une compétition comme la Coupe Davis, bien évidemment, de ne pas avoir de public. Oui.
Et même dans un stade désespérément vide, les coéquipiers sur le banc devront porter le masque, étouffant encore un peu plus les rares cris d'encouragement. L'avantage, souligne Nicolas Mahut, caustique, c'est qu'on ne verra pas que cette compétition ne passionne plus personne depuis 2 ans et la disparition des matchs domicile extérieur.
La plus grande difficulté, c'est la Marseille devant 0 personne. Mais on va pas avoir beaucoup de différence par rapport à ce qu'on a connu à Madrid. Donc pour nous, ça change pas grand-chose.
Ce qui change en revanche, c'est la défection toujours plus grande des stars du tennis, comme Zverev. Suffisant pour revenir à l'ancienne formule. Hier, les capitaines, dont Sébastien Grosjean, appelaient à de nouvelles discussions.
Je crois qu'il faut se mettre autour d'une table avec les instances et intégrer les joueurs pour trouver la meilleure formule pour que ça rentre dans le calendrier, pour que les meilleurs puissent représenter leur pays.
Pas sûr qu'ils soient entendus. Hier soir, une autre piste emmenait la compétition à Abu Dhabi pour 5 ans avec un gros chèque à la clé. Dommage, car une Coupe Davis sans ses supporters, c'est comme un chaudron sans feu.
Ah bah c'est bien vrai, hein. Sachez que les autres phases de poule se déroulent à Madrid et à Turin.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, un zoom terrible en Afghanistan où des fillettes sont vendues dès l'âge de 6 ans.